Alors, toute ressemblance avec une situation existante est fortuite. Il est 8h30, petit Jean, 2 ans, qui s'est levé depuis 6h30. Depuis 20 minutes, te court après en te criant « Mais ! Mais !» qui veut dire dans son langage « S'il te plaît, toi qui as l'autorité parentale, donne-moi des dessins animés. » Alors toi, tu es un bon parent et tu sais que tu ne dois pas montrer à un enfant le mettre devant un écran avant ses 2 ans révolus. Hein. Enfin, en tout cas, tu l'as lu quelque part. Mais lui, il est là derrière toi et puis il crie « Mais ! Mais !» Alors, tu lui dis « Non, petit Jean, tu n'auras pas de dessin animé. Tu es pédagogue, tu insistes et tu fais comprendre qu'il est trop petit. » Et si la parentalité, ça ne vous parle pas trop, voyons si cet exemple vous parle. Il est 8h30 et tu arrives au boulot en retard. En retard parce que la veille, tu as planché sur les chiffres de ton entreprise et tu t'es rendu compte en étudiant les chiffres que tu peux faire économiser une grande somme d'argent à ta boîte. Autour de la table de la réunion, ton N+1 et ton N+2 te disent « Mais Jean, oui parce que tu t'appelles aussi Jean, Jean, ça ne va pas marcher ton truc. » Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es quand même persuadé que tu vas faire économiser des sous à ta boîte. Qu'est-ce que tu fais? Tu insistes. Insister, on le sait, même si on n'aime pas particulièrement ça, quand les gens rejettent nos idées, ça vaut le coup. On le sait et Jésus le sait aussi. Au verset 12, il fait cette déclaration étincelante. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura au contraire la lumière de la vie. » Alors la semaine dernière, Antoine nous a introduit à ce bloc de chapitre 7 au chapitre 8 de la fête de Jérusalem qu'on appelle la fête des huttes. C'est une grande fête d'une semaine à laquelle Jésus est en train de participer. Alors c'est quoi cette fête? Cette fête raconte la histoire passée d'Israël. Cette fête rappelle leur identité. Et cette fête leur rappelle aussi le futur qui les attend. Cette fête, elle a pour objectif d'éveiller des souvenirs. Une façon fraîche d'intégrer à nouveau qui est Dieu pour ce peuple hébreu. Lors de la fête des huttes, la nuit, il y avait des colonnes massives de feu autour du temple qui rappelaient la nuée qui avait aidé le peuple à traverser le désert en route vers la terre promise. Le temple était éclairé par des lampions dans une Jérusalem qui était sombre. C'était beau. Ça brillait de mille feux. Les gens dansaient, riaient et chantaient le psaume 27. « L'Éternel, l'Éternel est ma lumière et mon salut !» C'était festif, un souvenir heureux. Les gens sont dans la joie. Puis la fête s'arrête. C'est lundi. Alors on range tout. Et puis on retourne au boulot. Et alors que la lumière du temple s'éteint, que la fête s'arrête, Jésus se dresse à nouveau au milieu du temple et il dit « Je suis la lumière du monde !» Autrement dit, c'est moi, la nuée, que vous suiviez dans le désert. Je suis celui que vous êtes en train de célébrer, la fête qu'on est en train de faire ici, ça parle de moi. La fête avec moi ne s'arrête pas, les danses ne cessent pas, les rires, les joies, la lumière ne s'éteint jamais. Rappelez-vous, la lumière symbolise la présence de Dieu. Jésus leur dit, c'est moi, la nuée dans le désert. Vous ne marcherez plus dans les ténèbres si vous me suivez, mais je vous conduirai jusque dans la vie éternelle. C'est brillant. C'est lumineux, c'est tout ce qu'on désire. Dieu vient pour éclairer nos ténèbres et nous conduire dans la vie éternelle, là où il n'y a plus ni deuil, ni pleurs, ni violence. Là où on s'époumonne de rire, là où on danse et là où la joie ne cesse jamais. Ça, c'est l'offre magnifique de Jésus au début de ce chapitre 8. Et alors, ma question, c'est comment vous réagissez ? Ça vous plaît ? Pour bien saisir l'enjeu de ce texte, je vous invite à voir comment les contemporains de Jésus ont réagi. Observez leur réaction au verset 13. « Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Réaction ? Jésus, ta lumière là ? Non merci, on n'en veut pas. Il le rejette. Pire que ça, regardez, il se moque de lui. Après avoir justifié la raison de sa déclaration, disant que ce témoignage est celui du Père suffisent, versets 14 à 18, que répondent les Juifs, verset 19 ? Mais il est où ton Père ? Et encore verset 22, après que Jésus leur dise qu'il est le seul à pouvoir les conduire là où ils ne peuvent pas aller, ils disent « Mec, mais va-t-il se tuer ?» Puisqu'il dit « Vous ne pouvez pas venir où je vais ?» Et puis il déforme ses propos. Verset 25, « Tu te prends pour qui ? La température monte, monte, il y a de l'électricité. » Verset 20, « Ils veulent l'arrêter à la fin du verset 53. Après avoir insulté Jésus de démon, ils veulent lui jeter des pierres. » C'est chaud, c'est critique. C'est électrique. Comment réagissent les gens à la déclaration de Jésus ? Ils le rejettent. Vous voyez, Jésus a une offre brillante à nous faire. Mais les gens ne vont pas l'accepter. Il est la lumière du monde, mais beaucoup, beaucoup vont le rejeter. Jésus insiste, il persiste, malgré les moqueries, il signe. Mais vous et moi, nous n'aimons pas insister, parce que vous et moi, on n'aime pas être moqués, on n'aime pas être rejetés. Alors pourquoi on insisterait ? Pourquoi on continuerait à présenter Jésus et son message ? Pourquoi persévérer ? Pourquoi insister à présenter la bonne nouvelle de l'Évangile à des grenoblois qui, nous le savons, bien souvent, le rejettent ? Eh bien, la raison est la même pour Jésus que pour nous, avec petit Jean, avec notre N plus 1, ou quand il s'agit de communiquer l'évangile de Jésus. Pourquoi insister ? Parce que les personnes, les gens, en ont terriblement besoin. Les gens en ont terriblement besoin. Jésus insiste. Est-ce que vous avez identifié les trois besoins dans ce texte ? Premièrement, nous allons mourir dans nos péchés, verset 21 à verset 24. On parle de la destinée des hommes sans Jésus. Deuxièmement, nous sommes esclaves du péché, verset 34. Et là, on parle du présent des hommes sans Jésus. Troisièmement, nous sommes les enfants du diable, verset 44. Et là, on parle de l'origine des hommes sans Jésus. Alors, c'est pas un chapitre rigolo. Je suis désolé, mais je suis convaincu que si on comprend le besoin, on comprend l'insistance de Jésus malgré le rejet. Pourquoi Jésus est-il la lumière du monde dont nous avons besoin ? Premièrement, destiné sans Jésus, parce que nous allons mourir dans nos péchés. Verset 21, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. » Vous ne pouvez pas venir là où je vais. À plusieurs reprises, Jésus leur a dit qu'il y a une différence entre lui et les hommes. Les pharisiens, l'élite religieuse de l'époque de Jésus, pensent qu'ils peuvent le juger, alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour le juger. Verset 14. « Je sais d'où je suis venu, dit Jésus, et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. » Je ne juge pas de la même manière que vous, de cette façon. Fin du verset 21, vous ne pouvez pas venir où je vais. Verset 23, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis hors de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez mourir dans vos péchés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pourquoi Jésus, la lumière du monde, invite-t-il des personnes à le suivre? C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils ne pourront pas le suivre là où il va. Où va-t-il? Où va Jésus? Vers Dieu, vers le Père, vers la vie éternelle, là où les rires et la danse ne cessent jamais. Et c'est profondément dérangeant qu'on entende qu'on ne peut pas suivre Jésus. Parce que tous les jours, on nous rappelle que la lumière, c'est nous. Et que nous sommes aussi, quelque part, d'en haut. C'est comme ça qu'on nous appelle. Hein. On nous appelle les héritiers des lumières, avec un L majuscule. On est sorti de cette période sombre du Moyen-Âge. Regarde mon smartphone. Il est incroyable. Il y a plus de technologie dans ce petit objet qu'il y en avait pour envoyer la fusée Apollo vers la Lune en 1969. Le progrès humain est génial. C'est dingue quand on y pense. Regarde-nous, la lumière, elle n'est pas en dehors de nous, elle est à l'intérieur de moi. Je suis ma propre lumière, je sais très bien ce dont j'ai besoin et je sais que je n'ai besoin d'aide de personne. Je suis la lumière du monde et je suis d'en haut. Et si je suis d'en haut, alors il n'y a rien qui puisse être au-dessus de mon jugement. J'ai même le droit de juger Dieu. Je dois briller et je ferai tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour diminuer la lumière de Dieu. Et cette inclinaison naturelle, où on croit tous qu'on est des lumières, qu'on est d'en haut, eh bien, la Bible appelle cela le péché. Mais si on fait le bilan honnête, juste depuis les années 70, sans évoquer les deux guerres mondiales qui ont fait plus de morts dans toute l'histoire de l'humanité que d'autres conflits, qu'est-ce qu'on voit? On parle de l'égalité homme-femme? On parle du nombre de féminicides qu'il y a depuis le début de l'année? On parle du harcèlement scolaire? Est-ce qu'on parle du réchauffement climatique, dont on sait aujourd'hui que la cause principale est l'activité humaine? On parle d'Internet? Wikipédia, tout le monde voit. Projet de Wikipédia, c'était enfin l'universalisation de l'encyclopédie des Lumières. Ça, c'était le projet. Connaissance pour tous, tout le temps, dans le monde entier. Vous savez quels sont les sites qui sont le plus visités sur Internet? Je vous le donne dans le mille, la pornographie. Ça, c'est notre monde actuel depuis les années 70. Et qu'on regarde à droite, qu'on regarde à gauche, c'est partout les mêmes problèmes. On se prend pour des lumières, mais la réalité, c'est que nous sommes des ténèbres. Nous sommes d'en bas. Et oui, nous ne pouvons pas aller où il va. Et à cause de cela, nous allons mourir dans notre péché. C'est notre destinée sans Jésus. C'est pourquoi il insiste. Nous avons terriblement besoin de lui. Ça, c'est la destinée sans Jésus. Regardons maintenant le présent sans Jésus. Verset 34, nous sommes esclaves du péché. Et si notre futur est un épais brouillard ténébreux, il y a plus grave. Notre présent est un esclavage. Alors, petite confession pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes parmi nous, ou ceux et celles qui ne sont pas né dans une famille chrétienne ou grandi dans une famille chrétienne. Je l'ai remarqué, parfois les enfants de chrétiens vous envient un peu secrètement. quand on leur demande comment ils sont devenus chrétiens, alors ils commencent leur témoignage comme ça. Bon, le témoignage de ma rencontre avec le Seigneur n'est pas très extraordinaire. Ce qui veut dire avec les sous-titres, ce qu'a fait Jésus, le salut de Jésus n'était pas si impressionnant. Selon eux, vous avez expérimenté quelque chose de plus impressionnant que leur vie. Mais eux, ce n'était pas vraiment spectaculaire. Eh bien, si je puis me permettre, ce n'est pas vraiment d'après Jésus. Parce qu'au verset 30, des personnes se mettent à croire en lui, sont des descendants d'Abraham, des croyants, mais Jésus va aller encore plus loin pour que leur foi ne se base pas juste sur la peur de mourir. Verset 31, regardez. « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes des croyants. Nous avons été esclaves de personne. » Entre parenthèses, une lecture un peu sélective de la Bible. On ne mentionne pas l'Égypte. On ne mentionne pas Babylone. Et le fait qu'ils sont sous domination en romaine depuis des années. Bref, je ferme la parenthèse. « Comment peux-tu dire « vous deviendrez libre » ?»« en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus. Écoutez bien. « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Qu'est-ce qu'on est avant de rencontrer Jésus? Pas des gens sympas qui ont besoin de quelques ajustements dans leur vie, mais des esclaves. Des esclaves asservis à leurs désirs propres. D'après Jésus, celui qui commet le péché est esclave du péché. On pouvait sincèrement, à la base, tous penser qu'on pourrait être libre sans Dieu, avec les lumières, avec le progrès. Mais la découverte amère, c'est que cette recherche active de liberté aujourd'hui s'est soldée avec de multiples addictions. Il y a un serpent en Australie qui... c'est une anecdote qui s'incruste dans une maison. Dans la maison, il voit un cochon d'Inde qui a l'air appétissant. Il le voit dans sa cage et il se dit « Hum, je vais le manger celui-là. » Il se faufile à travers la grille de la cage et gna ! Il avale le cochon d'Inde. C'en est fini de lui. Et cependant, pauvre serpent, il lui faut plusieurs heures pour digérer l'animal. Et donc on a son petit corps tout fin et au milieu on a cette grosse boule de viande qui se digère dans l'estomac. Donc que fait le serpent? Eh bien, il s'aperçoit qu'il ne peut plus passer à travers les grilles de la cage. Et malheureusement pour lui, le propriétaire rentre et quand il voit que son cochon d'Inde n'est plus là, et le serpent au milieu de la cage, que fait-il? C'est la fin du serpent. Si nous pensons que manger un cochon d'Inde ne fait pas de nous des esclaves, pensez à ce serpent coincé dans cette cage. Et maintenant, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez cliqué sur ce lien. Toutes les fois où vous avez exagéré à votre sujet, au sujet d'une anecdote, quelque chose qui vous met en avant, pour plaire aux gens autour de vous. Toutes les fois où vous avez jugé, sans même y penser, pour vous valoriser. On cherche tous à satisfaire un appétit. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on réalise ? Que ce qui semblait nous nourrir, nous faire du bien, est en train de nous tuer, est devenu une habitude, est devenu une addiction, est devenu un esclavage. On n'a pas besoin juste d'un petit coup de pouce dans la vie, on a besoin d'une libération. on va du mal vers le pire. Hein. Et la question qui nous reste, c'est mais d'où ça vient tout ça? Après avoir vu la destinée, le présent, voyons l'origine sans Jésus. Dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es. La question des origines, c'est une des questions qui taraude le plus l'humanité depuis des années. Que ce soit le Big Bang, que ce soit la recherche d'un ancêtre commun, que ce soit un test de paternité, on sait tous que l'origine nous révèle des choses sur notre présent. Souvent, les médecins nous demandent par exemple si on a des membres de notre famille qui ont telle ou telle maladie cardiaque ou auto-immune. Pourquoi ? Parce que ça a une influence sur notre présent. Pour Jésus, ce qui est déterminant, ce n'est pas notre origine sociale et religieuse. Ce n'est même pas notre génétique. Ce qui est déterminant, c'est notre origine spirituelle. Pourquoi sommes-nous dans les ténèbres ? Pourquoi sommes-nous attachés aux mensonges qui nous rendent esclaves ? Pourquoi on rejette Dieu ? C'est parce que nous avons pour père le diable, à la base. Après avoir révélé à maintes reprises qu'il est Dieu, notamment en répétant tout au long « Je suis », allusion à Exode 3,14, allusion à Ésaïe 41 et 43, « Je suis l'Éternel », Jésus leur dit, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Si vous étiez Dieu, imaginez, si vous étiez Dieu, comment vous feriez pour vous faire comprendre que c'est vous Dieu ? Allez-y. Des idées ? Qu'est-ce que vous feriez ? Ronny, si tu étais Dieu.
Un gros miracle.
Des signes. Très bien. Apparition. Ok. D'autres ? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Dieu ? Comment vous essayeriez de le faire comprendre aux gens ? On ferait des bonnes choses pour le monde. On a eu des signes. En ce début de l'évangile, je pense que vous le diriez, je suis Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et troisièmement, vous espéreriez qu'il y ait des gens qui croient que vous êtes Dieu. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est ce que fait Jésus d'ailleurs. Il fait des signes, il montre, il fait le bien autour de lui, il rassasie les gens, il donne à boire à ceux qui ont soif, il affirme qu'il est Dieu, je suis. Moi, je suis. Et puis aussi, il y a des gens qui commencent à croire en lui. Rappelez-vous de Pierre et de sa confession à la fin du chapitre 6. Tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irions-nous ? Ça, ce sont les trois choses que Jésus a fait pour qu'il puisse montrer qu'il est Dieu. Et pourtant, les gens le rejettent. Tu es un Samaritain. Tu as un démon. Je vous passe le décryptage des insultes qu'il y a dans ce texte. Pourquoi font-ils cela ? Pourquoi le rejettent-ils ? À cause de leur origine. Jésus est la vérité et la vie. Mais eux, ils sont pour père le diable qui est meurtrier et qui est le mensonge depuis l'origine. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité. C'est comme l'huile et l'eau. On ne parvient jamais à les mélanger. Et tôt ou tard, les deux se repoussent naturellement. Soit on est de Dieu, soit on est du diable. Mais même si vous ne le voyez pas, on est spirituellement attaché à l'un de ces deux. La question est qui appartenons-nous vraiment ? À qui appartenez-vous vraiment ? Alors comment peut-on savoir si on est du diable ? première question, est-ce qu'on est esclave du péché, de notre péché? Face à un péché habituel, si on n'a jamais le désir pour envie de changer, pour plaire à Dieu, eh bien, il faut se poser la question, suis-je réellement de Dieu? Si lorsqu'on commet un péché, on est plus désolé pour soi parce qu'on s'est fait mal, plutôt qu'on a offensé Dieu, je pense qu'il est légitime de se poser aussi la question. Si quand on pêche, on le fait en sachant qu'on est en train de déplaire à Dieu, mais on le fait quand même, alors il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment son enfant? Verset 30. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si votre attachement à Jésus ne grandit pas, si vous êtes indifférent à lui, peu importe le nombre d'années qu'on a passées dans une église, il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Ou ai-je encore pour père le diable? Alors c'est dur. C'est dur. Jésus nous fait toucher le fond cet après-midi. Notre origine révèle notre condition. Jésus se présente comme le phare qui vient éclairer et offrir le salut à ceux qui viennent à lui. Éclairer des hommes et des femmes qui gisent dans les ténèbres. Parce qu'il sait que nous en avons terriblement besoin. Nous allons mourir dans nos péchés. Nous sommes esclaves. Nous avons pour père le diable. La tragédie, c'est qu'à la fin, ceux qui écoutent vont prendre des pierres pour tenter de briser le phare. On a trois besoins terribles de venir à la lumière. Mais la tragédie, c'est que notre état est si grave qu'on ne se rend même pas compte qu'on a besoin de cette lumière. Alors, quel que soit notre constat par rapport à l'insistance de Jésus, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui est là dans ce texte, la bonne nouvelle, c'est qu'avec son insistance, il offre aussi une solution. Il veut effectuer un transfert, un changement de filiation. Et pour réaliser ce transfert, pour sortir de cet esclavage, on doit voir Jésus, verset 28. Quand vous aurez élevé le Fils, qui est une allusion à sa mort sur la croix, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis vraiment votre Père. Il faut voir Jésus, il faut croire en lui, verset 51. Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Pour être au bénéfice de l'œuvre de la lumière du monde, il faut que le Fils nous libère. Et c'est précisément ce qu'il vient faire. Oui, la gloire de Dieu, la nuée qui transportait ce peuple vers la vie éternelle, c'est Jésus qui nous amène, là aussi, vers un lieu où il n'y a plus ni deuil, ni pleurs, ni larmes. Là où on danse, on rit et où la joie ne cesse jamais. Deux applications. Première, nous rejetons tous Dieu par nature. Nous rejetons tous Dieu par nature. Si nous sommes esclaves du péché, c'est parce que nous avons pour père le diable et notre destinée, c'est la mort. Mais c'est vraiment la bonne nouvelle de ce que Jésus est en train de dire. Si on réalise quelque chose cet après-midi, ben sachons que Dieu, il ne nous méprise pas. Au contraire, Dieu nous aime. Dieu veut prendre soin de nous. Dieu veut intervenir pour nous. Et il l'a fait. La lumière est venue et a brillé dans les ténèbres. Qui est au bénéfice de cette lumière? Jean 8 nous l'a dit, hein. C'est celui qui suit la nuée, c'est celui qui demeure dans la parole, celui qui commence à comprendre ici, maintenant, dans son cœur, que Jésus est vraiment Dieu, venu lui donner la vie éternelle. Ça, c'est la première application. Deuxième application, les hommes et les femmes rejettent Jésus par nature. Alors arrêtons de penser que c'est nous qui avons un problème. Ce n'est pas notre manière d'insister, de parler, ou l'intelligence avec laquelle nous pouvons annoncer l'Évangile qui va faire entrer les gens en relation avec Dieu. Mais c'est le Fils. C'est le Fils qui est venu et qui nous dit « C'est moi qui libère ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour se dégager du diable, pour sortir de l'esclavage du péché et vivre ? Il faut l'intervention de Dieu. Pas un argument intelligent, pas la manipulation par la peur, pas une imposition de nos idées, mais une invitation respectueuse à l'écoute attentive de Jésus et de sa parole, afin qu'on commence à se mettre à le suivre. S'il vous plaît, cette semaine, posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous sauvé ? Êtes-vous sauvé ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, êtes-vous heureux ? Heureux d'être sauvé ? Troisième question, reconnaissez-vous le moyen par lequel Dieu vous a sauvé ? En devenant un disciple de Jésus, en demeurant dans sa parole. Et quatrièmement, reconnaissez-vous que Dieu veut faire la même chose avec d'autres personnes. Si c'est le cas, alors s'il vous plaît, cette semaine, ouvrez votre Bible avec quelqu'un en tête à tête. Priez, semez, annoncez, invitez, proposez, jusqu'à ce que Dieu réponde à cette prière et qu'une personne veuille se mettre avec vous, à vos côtés, à l'écoute de la parole de Jésus. S'il vous plaît, cette semaine, annoncez l'Évangile, annoncez le verset 12. Jésus est vraiment la lumière du monde. Celui qui suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Annoncez, insistez, les gens en ont terriblement besoin. Je vous invite à un temps de silence. Le constat est difficile, Seigneur. Tu es venu pour être la lumière du monde, pour nous sauver. Mais beaucoup te rejette. Alors que toi, tu insistes parce que tu es le bon médecin qui sait le grave problème dont nous sommes atteints et qui vient insister et plaider auprès de nous pour se présenter comme la seule solution de salut pour nous. Je prie que nous réalisions ces choses et que nous puissions être rassuré d'avoir découvert Jésus comme étant cette lumière, notre phare dans la nuit. S'il te plaît, convainc-nous encore de notre besoin et aide-nous à maintenant tourner les regards et à fixer notre attention sur la croix de Jésus. Amen.